Chers auditrices, chers auditeurs, juste avant de commencer l'épisode, j'ai besoin de vous pour un appel à témoignage. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus. Dans l'épisode du jour, je reçois Kevin qui nous parle de sa double activité en médecine générale et en médecine esthétique. Kevin explique son envie d'aider les gens, de faire plein de choses et comment finalement une rencontre l'a poussé vers l'esthétique. Il raconte comment il a toujours exercé en parallèle les deux activités sans être toujours très satisfait de ses conditions d'exercice. Avec Kevin, nous avons parlé des réseaux sociaux, de la construction d'une patientèle et de la pratique idéale de la médecine esthétique. Bonne écoute! Bonjour Kevin, bienvenue à La Consulte.
Bonjour, merci.
Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter comme tu le souhaites, s'il te plaît?
Oui, alors je suis le docteur Kevin Kerran, j'ai 36 ans. Et je suis à la fois médecin généraliste et médecin laseriste et j'exerce dans un cabinet de groupe à Marne-la-Vallée, à côté de Disney.
Et est-ce que tu vas à Disney tous les week-ends?
Non, ça m'arrive d'y aller, c'est vrai, mais de moins en moins d'ailleurs. Je le connais à force.
Juste pour préciser, quand tu dis médecin laseriste, on parle de laser à visée esthétique, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. De l'épilation laser surtout.
Dans le champ de la médecine esthétique, tu fais que du laser?
Actuellement, oui. J'y fais beaucoup plus parce que j'ai passé des formations, en fait, hein, des DU pour, j'ai passé plusieurs DU dans l'esthétique pour faire un petit peu tout ce qui concerne le champ de l'esthétique, que ce soit des injections, des peelings, du laser aussi, entre autres, des techniques d'amincissement, etc. Mais par souci de temps et de volonté aussi, je n'ai gardé que l'épilation au laser dans mon activité actuelle au quotidien.
Je crois qu'on va en reparler de comment t'en es arrivé à construire cette activité-là. Ça sera même l'objet de cet épisode. Et juste pour qu'on se rende compte un petit peu de ton activité actuelle, comment tu organises tes journées? Ça ressemble à quoi, une journée ou une semaine de ton activité de médecin?
Alors, du coup, j'essaye d'équilibrer ma double activité, à la fois donc de médecine générale et d'épilation au laser. J'ai tenté, on va dire, différents modes d'exercice où au début j'essayais de consacrer telle ou telle journée par semaine pour mon activité d'esthétique ou pour la médecine générale, mais c'était assez compliqué face à la demande des patients parce que ils ont chacun leur planning et leur jour de disponibilité et qui ne correspondait pas forcément à ce que moi j'essayais de prévoir. Du coup, au final, actuellement, j'en fais tous les jours la double activité. Je scinde ma journée en deux, en matinée et en après-midi. Et on va dire que soit je fais de la médecine générale le matin et du laser l'après-midi, ou l'inverse, laser le matin et médecine générale l'après-midi. De telle sorte à pouvoir faire les deux tous les jours.
Donc une journée, c'est une demi-journée de laser et une demi-journée de consultation de médecine générale tout venant.
Exactement, ouais.
Et petite question, dans le cabinet dans lequel tu exerces, tu disais que c'était un cabinet de groupe. Vous avez tous une activité mixte comme la tienne ou pas du tout?
Non, je suis le seul à avoir cette double activité. Mes autres collègues sont généralistes purs, on va dire.
Donc ça veut dire que j'imagine qu'il y a eu des investissements de ta part pour du matériel. C'est des choses que tu as fait, enfin c'est tes investissements à toi pour ton activité en fait. C'est pas des investissements partagés.
Exactement. En fait, on fonctionne ensemble pour les achats de groupe pour faire tourner le cabinet parce qu'on a des achats en commun, le matériel commun notamment de médecine générale. Mais oui, tout ce qui est propre à mon activité personnelle d'esthétique, c'est mes investissements perso et du coup ça ne concerne que moi à ce niveau-là, oui.
Et ça veut dire que tu fais tes activités de médecine générale et de médecine esthétique au même endroit, dans la même salle, dans le même cabinet?
Tout à fait. Ça aussi, ça a été un bon challenge parce que ça a été en fait le jour où je me suis installé à mon compte, où j'ai ouvert mon cabinet. Dès le premier jour, j'ai commencé ma double activité. C'est vraiment pas quelque chose qui est venu en cours. Donc vraiment dès le premier jour. Et le challenge était de faire un cabinet qui puisse à la fois correspondre à une activité d'esthétique et une activité de médecine générale, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment les mêmes types de cabinets de manière générale, mais il fallait qu'ils soient assez classe pour de l'esthétique, mais aussi assez assez cosy et familial pour la médecine générale. Donc c'était pas facile, mais j'ai réussi à trouver, je pense, le bon compromis. Et c'était un des challenges pour que je sois dans les temps pour ouvrir mon cabinet et pouvoir faire ma double activité.
Et est-ce que tu as eu des retours de tes patients, que ce soit en médecine générale ou en médecine esthétique, justement une remarque du style « Ah ben tiens, j'aurais pas cru qu'il y avait de la médecine esthétique dans ce cabinet » ou « On dirait pas que vous recevez des enfants », je sais, des choses comme ça ?
Oui, j'en ai eu surtout à mes débuts, on va dire, parce que bon, maintenant les gens qui viennent me voir le savent que je fais ma double activité, mais à mes débuts, c'est vrai que j'étais encore plus jeune, j'ai ouvert mon cabinet, j'avais même pas encore 30 ans, et c'est pas quelque chose qui est toujours fréquent d'avoir un généraliste qui fait une double activité totalement différente. Et oui, j'avais de temps en temps quelques petites remarques, mais elles étaient plutôt bienveillantes. C'était de l'étonnement positif, on va dire, parce qu'ils avaient juste pas l'habitude, mais ils étaient agréablement surpris. Certains venaient pour de la médecine générale et voyaient les machines de laser dans le cabinet et donc me disaient « Ah, vous faites ça aussi, c'est intéressant ». Ou alors d'autres qui venaient pour de l'épilation en laser et voyaient que dans un coin du cabinet, il y a des petits jouets pour les enfants, il y a un petit Mickey d'ailleurs, déjà Disney, et il me disait « Ah, vous êtes aussi généraliste ». Donc c'est vrai que ça pouvait en surprendre plus d'un au début, mais il faut dire qu'avec avec la plateforme de rendez-vous en ligne que j'utilise, quand les gens prennent rendez-vous avec moi, maintenant c'est assez clair, ce qui n'était pas le cas avant, mais c'est assez clair quand ils cliquent sur mon nom, on leur propose directement est-ce que c'est pour de la médecine générale ou pour du laser, et au moins les choses sont claires.
Donc finalement, il n'y a pas de surprise pour les patients et ils sont pas étonnés en voyant la déco du cabinet quand ils arrivent. Et est-ce que ça change quelque chose à ta pratique, dans le sens, est-ce que peut-être tu as plus de questions sur ce qui se fait en médecine esthétique? Est-ce que peut-être tes patients préfèrent venir te voir toi pour de l'épilation laser parce que ben ils te connaissent en tant que médecin de famille? Tu crois que ça change quelque chose d'avoir ces deux activités pour toi?
Oui, complètement. Je le sens et les patients me le disent souvent, parce que en fait, il faut savoir que l'épilation au laser, c'est quelque chose qui, entre guillemets, s'est énormément démocratisé ces 5-10 dernières années, on va dire. Mais il faut pas oublier que c'est un acte qui est purement médical. C'est-à-dire qu'il n'y a que des médecins qui, normalement, ont leur diplôme, qui ont le droit d'exercer l'épilation au laser. On parle pas d'autres modes d'épilation, mais le laser, c'est médical. Malheureusement, il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas forcément des médecins qui l'exercent. C'est censé être interdit, hein, mais bon, c'est comme ça. Et donc les patients sont rassurés déjà de venir voir un médecin, parce que c'est malheureusement pas toujours le cas. Ensuite, les patients qui font du laser avec moi, alors que c'est déjà mes patients en médecine générale, bien sûr sont encore plus rassurés, parce que ils me connaissent, ils savent à qui ils ont affaire, et donc voilà, la prise en charge ils sont déjà satisfaits de la prise en charge en médecine générale, et donc ils espèrent qu'en esthétique ce sera aussi la même chose.
Et est-ce que, inversement, il y a des patients qui rentrent dans ton cabinet pour la première fois pour l'esthétique et que tu retrouves ensuite en médecine générale?
Oui, ça arrivait beaucoup, surtout les premières années, quand je prenais encore des nouveaux patients. Malheureusement, ça fait un moment que je n'en prends plus, non pas par égoïsme ou par volonté, mais c'est par nécessité, parce que quand on prend des patients, il faut pouvoir avoir le temps de s'en occuper. Et c'est vrai qu'avec ma double activité, j'ai beaucoup moins de créneaux qu'un médecin généraliste classique. Et ça, je leur dis systématiquement depuis mon premier jour d'activité. Hein. Tout patient que j'ai déclaré en médecin traitant, je le préviens que j'ai des disponibilités un peu plus compliquées qu'un généraliste classique de par ma double activité. Et ils sont OK avec ça et comprennent très bien. Mais oui, ça arrivait très souvent que des gens qui venaient pour le laser me demandait en médecin traitant, ça arrivait une fois sur deux, on va dire, les premières années.
Donc, est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu construit ta patientèle via la médecine esthétique, enfin via l'épilation laser?
Non, je dirais pas non plus ça. Mais c'est une question intéressante parce que quand j'étais encore étudiant en médecine, je me rappellerai toujours de quelqu'un qui m'avait dit comme phrase, tu verras, la patientèle est à l'image du médecin. Et je comprenais pas avant cette phrase-là parce que je me disais que non, la patientèle dépendait de là où on s'implante, tout simplement. Je me disais que si je m'implante à tel endroit, bah, j'aurais les patients qui habitent là et puis si je m'installe autre part, j'aurai d'autres patients. Mais en fait, c'est très vrai. C'est très vrai parce que, ben, en fait, les gens viennent vous voir pour tel ou tel motif et ils voient s'ils sont satisfaits ou pas. Et ils reviendront vous voir pour d'autres motifs en se disant que vous allez gérer aussi. Certains médecins sont connus pour voir ce qu'on appelle que de la bobologie, entre guillemets, mais quand les problèmes deviennent un peu trop sérieux, les patients disent par contre, quand c'est sérieux, je préfère pas aller le voir lui, je vais voir quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est comme ça que naturellement la patientèle se fait, en fonction des médecins. Et je dirais que c'est plus ça qui a construit ma patientèle que l'esthétique, parce que j'avais quand même plus de gens qui venaient pour la médecine générale de base que via l'esthétique, on va dire. Après, oui, je pense que le fait de voir, d'exercer l'esthétique a probablement joué sur le fait que ma patientèle est relativement jeune, je pense.
J'imagine, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que j'imagine les personnes qui viennent pour une épilation laser, j'imagine des femmes jeunes, clairement. Donc, c'est sûr que si tu as une partie de ta patientèle qui vient de là, c'est une patientèle plus jeune. Et puis peut-être que en fonction de l'âge, les attentes sont pas les mêmes et peut-être que certains ont plus ou moins confiance en se disant « Oh, c'est bizarre cette activité de médecine esthétique, c'est nouveau, je vais peut-être aller voir ailleurs ». Tu crois qu'il y a ça ou autre chose?
Comment ça? Est-ce que tu peux repréciser la question?
Je me dis que finalement, quelqu'un qui est plus âgé, qui a peut-être été suivi par un médecin généraliste... À l'ancienne, qui n'a toujours fait que ça, va plutôt chercher un médecin généraliste qui ne fait que ça et sera peut-être un peu plus sceptique devant quelqu'un qui aurait deux casquettes.
D'accord.
Voilà.
Oui, d'accord. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est dur d'avoir la réponse parce qu'il faudrait avoir le point de vue des patients eux-mêmes. En soi, j'ai jamais reçu de réflexion ou de remarques concernant ma double activité qui pouvait déranger des patients. Quand j'ai rouvert mon cabinet, j'ai récupéré une partie de la patientèle du médecin que je remplaçais, qui avait pas mal de patients âgés. Et a priori, ça ne les a jamais dérangés. En tout cas, ils m'en ont jamais fait part. Et eux me voient vraiment que dans ce registre-là de médecine générale. Et ils voient que j'essaye vraiment d'être impliqué au maximum. Et j'essaye vraiment de jouer mon rôle de généraliste au maximum avec mes patients âgés, que ce soit dans la prévention, dans toutes les explications, les vaccins, les dépistages. Donc je pense pas qu'ils soient gênés en fait par cette double casquette parce que j'essaye vraiment de jouer chacun des deux rôles à fond. Maintenant, effectivement, il faudrait plus leur demander à eux. Mais souvent, ils me disent qu'ils sont contents d'avoir un petit jeune comme médecin, comme ils disent. Donc, non, je n'ai pas en tout cas ce ressenti-là.
Moi, je suis très contente de t'avoir à mon micro pour justement un peu explorer cette double activité. Et je me demandais si les retours des patients, ça pouvait... Enfin, la façon dont c'était vécu par les patients, ça pouvait t'impacter, mais... J'ai l'impression que les retours sont quand même plutôt positifs, globalement.
Oui, globalement. Après, j'essaye de faire en sorte que, comme j'expliquais tout à l'heure, en esthétique, si j'ai gardé que l'épilation au laser, c'était aussi pour ne pas trop me diversifier. Je préfère faire peu et bien que trop et mal. J'aurais pu continuer hein. Et d'ailleurs parce qu'on parlait de patientèle jeune dans l'esthétique, mais j'ai aussi une patientèle un peu moins jeune en esthétique qui ont des demandes autres des fois que l'épilation laser. On me demande beaucoup est-ce que je fais des injections, est-ce que je fais des sortes de lifting pour raffermir la peau, etc. C'est des choses pour lesquelles je suis diplômé pour, mais je ne le fais plus parce que en fait je me diversifierai trop et j'arriverai plus à gérer autant que je voudrais à la médecine générale. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de faire les deux pleinement, et l'épilation laser étant une demande déjà très forte, j'avais pas envie de trop en faire et de me noyer, de m'éparpiller dans les différents champs de compétences en fait. Donc je pense vraiment que j'essaye de me dévouer à fond dans chacune de mes deux activités, mais c'est vrai que l'esthétique, c'est tellement vaste, c'est large, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de demandes, et je pense qu'on peut rapidement s'éparpiller, se noyer et finalement se tirer une balle dans son propre pied. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu garder que l'épilation au laser dans l'esthétique.
Parce que tu as besoin d'être vraiment bon dans ce que tu fais en médecine esthétique pour que... tu as une obligation de résultat, quoi.
Exactement. Mmh. Exactement. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Comme j'explique à chaque fois à mes patients d'esthétique, c'est un support, c'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit un doute, une complication, une réaction de la peau, qu'ils n'hésitent pas. Tout ce qui est laser, je réponds. S'ils ont besoin de m'envoyer une photo, et voilà, ça fait partie pour moi de la prestation, ça fait partie du suivi, qu'ils se sentent pas lâchés dans la nature s'il y a quoi que ce soit. Et c'est aussi pour ça, de base, que je suis sur les réseaux sociaux, pour avoir un support, en fait. Et effectivement, en esthétique, c'est assez particulier, hein, parce que c'est pas des patients qu'on guérit, mais c'est des patients qui doivent être satisfaits de la prise en charge. Donc, j'essaie de donner mon maximum.
Et donc, pour toi, les réseaux sociaux, c'est pas de la publicité, c'est faire du lien et c'est être disponible pour tes patients, pour un complément d'information, une réassurance.
Exactement, en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde baigne dedans, mais il faut pas oublier leur but premier, qui pour moi reste un partage d'informations, une connexion, et vraiment, vraiment du partage et de la compréhension. Moi, je suis content quand je reçois des patients qui, en laser, en esthétique, qui me disent qu'en fait, ça fait un moment qu'ils me suivent déjà sur les réseaux avant même d'avoir pris rendez-vous avec moi. Et ils ont été, c'est ce qui les a motivés à prendre rendez-vous. En fait, ça les a rassurés de voir déjà mon activité, de voir, qui j'étais, comment je travaillais. Et je pense que les réseaux sociaux, quand ils sont utilisés à bon escient, peuvent être un magnifique outil, en fait, pour aider, pour partager, pour diffuser de l'information. Malheureusement, il y a beaucoup de dérives, hein, comme dans tous les domaines. Mais le but premier pour moi, c'est ça. Et d'ailleurs, je parle aussi beaucoup de médecine générale sur les réseaux sociaux. Et j'ai des retours des fois qui me donnent du baume au cœur, parce que j'ai des fois des retours de patients d'autres pays francophones qui me suivent et qui me disent merci pour tel ou tel poste, j'ai appris quelque chose, ou et je trouve ça magnifique. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est censé être ça. Et quand j'entends plein de gens dire je suis allé voir mon médecin, je suis ressorti de chez lui, j'ai pas compris grand chose à ce qu'il m'a dit, il m'a parlé avec du jargon médical, je me dis c'est pas normal. Et c'était aussi un des buts des réseaux pour moi, c'était de partager de l'information de façon simple, de façon universelle, en tout cas francophone. Et puis c'est pas pour faire de la publicité, c'est pour que les gens sachent ce que je fais, comment je le fais, et c'est un gage de sérieux aussi.
C'est de la transparence.
Je me cache pas. Il y a mon adresse, il y a mon cabinet, il y a moi, il y a mes postes. Les gens viennent et ils savent à qui ils ont affaire.
Et je te propose qu'on fasse un peu plus ample connaissance, et en tout cas plus ample connaissance avec ton parcours professionnel, et qu'on remonte le temps, mm-hmm. et qu'on commence par le commencement, et que tu nous expliques pourquoi tu as choisi de t'inscrire en médecine.
Eh bien, on va faire un grand, grand bond dans le temps, des presque une trentaine d'années, parce que j'ai eu la chance de savoir très, très, très jeune ce que je voulais faire dans la vie, de façon assez ferme et définitive. Ma mère me dit souvent qu'à 8 ans, je lui ai dit que non seulement je voulais être médecin, mais que je serais médecin. Donc, je pense que j'ai toujours aimer, aider les gens, c'est surtout ça en fait, ça fait partie de ma personnalité, d'être à l'écoute, d'aider les gens du mieux que je peux, et ça depuis tout petit en fait. Après, c'est vrai que je baigne aussi dans une famille dans la santé, ma mère étant infirmière de bloc opératoire, mon grand frère aussi est médecin, ma grande sœur est pharmacienne. Donc, on baigne un peu tous là-dedans, mais quand j'avais 8 ans, mon frère et ma sœur n'étaient pas encore dans leurs études. Donc, on va dire que c'est pas eux qui m'ont influencé. Mais voilà, j'ai toujours aimé les gens. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'étais petit, j'avais pas mal de soucis de santé qui faisaient que j'étais régulièrement hospitalisé. Et donc, pour moi, l'hôpital, c'était une deuxième maison. J'ai jamais vu ça comme quelque chose qui me faisait peur ou... Au contraire, je savais que quand j'allais là-bas, je ressortirais mieux. Et je pense aussi qu'il y a une partie de moi qui a voulu rendre à la médecine ce qu'elle m'a apporté dès le plus jeune âge. Donc, comme je disais, dès 8 ans, j'ai voulu être médecin. Ben, ma mère m'a dit que c'était très bien et qu'il fallait travailler du mieux possible à l'école. Et ce que j'ai essayé de faire, et voilà.
Quand tu t'es inscrit en médecine, est-ce que tu avais une idée de ton projet futur, la spécialité que tu voulais exercer? Est-ce que tu te projetais comme médecin à l'hôpital? C'était quoi ta représentation de toi en tant que médecin plus tard?
Alors moi, j'ai toujours su qu'en fait, en médecine, il y avait un choix énorme. C'est un métier très très vaste avec plein de spécialités différentes. Ça, je l'ai toujours su avant même de m'inscrire en médecine. Et c'est aussi ce qui me plaisait dedans, c'est que on pouvait vraiment se rapprocher au maximum de ce qui nous correspondait selon les spécialités et le mode d'exercice aussi. Et j'ai toujours été quelqu'un qui m'intéresse à plein de choses, qui n'aime pas me reposer sur mes lauriers, qui aime bien faire plein d'activités. Et la médecine générale, je pense, était la spécialité qui me correspondait le plus à ce niveau-là. Parce que j'ai toujours eu peur si j'étais dans une spécialité trop pointue, comme, je ne sais pas, cardiologue, neurologue. Je n'ai absolument rien contre eux, hein, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que en étant cardiologue, je me dis faire du cœur matin, midi, soir. Je sais que j'aurais fini par m'ennuyer. Et ce que j'aime bien, ce que j'adore même en médecine générale, c'est que, bah, comme son nom l'indique, c'est général. On traite de tout, et je ne sais pas ce qui m'attend quand je me lève le matin. Et ça, c'est ce que j'adore. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivé à faire la médecine générale, parce que, voilà, je peux avoir aussi bien du diabète que de l'hypertension, de la grossesse, de la médecine du sport, de la pédiatrie, de la gériatrie, des vaccins. Je trouve ça absolument génial de me lever le matin ne sachant pas quelle sera ma journée. Et malgré ça, j'ai voulu encore faire une double activité pour être sûr de ne pas m'ennuyer. Voilà.
Et il n'y a jamais dans le cursus un stage où tu t'es dit « Ah tiens, cette spécialité quand même, pourquoi pas ?»
Si, j'ai toujours su que je voulais faire la médecine générale, et j'ai toujours su que si possible je voulais faire également autre chose, parce que je sais qu'avec les diplômes universitaires on peut se sous-spécialiser dans d'autres branches aussi, mais je ne savais pas quoi d'autre en parallèle de la médecine générale. Moi qui aime beaucoup le sport, j'avais hésité aussi à faire médecine du sport. Moi qui avais beaucoup d'allergies, j'avais hésité aussi de faire un DU d'allergologie. J'étais sur plusieurs projets en parallèle de la médecine générale, et c'est vraiment un stage que j'ai fait au cours duquel j'étais interne dans le cabinet d'un médecin qui justement elle faisait aussi de la médecine générale et de l'esthétique en parallèle, donc elle aussi elle avait une double activité, et c'est ce stage là qui m'a en fait mis sur la voie de l'esthétique. C'est ce stage là et cette médecin là qui m'a dit qu'elle me verrait bien dedans. Et voilà, en fait, comment l'esthétique est venue à moi.
On a avancé très vite, du coup, mais c'est pas grave, on va parler de ça. Tu avais choisi ce stage en disant, tiens, il y a 7 mètres de stage qui fait de l'esthétique, ça sera l'occasion de voir ce que c'est, ou tu n'étais même pas au courant et tu l'as découvert par hasard. Et puis... est-ce que c'était intentionnel, finalement, de vouloir tester l'esthétique et de voir ce que ça donnait, ou pas du tout?
Eh bien, initialement, pas du tout. C'était un peu un hasard. Pour tout te dire, j'avais pris ce stage-là parce que il fallait que je commence à préparer une thèse. et ce maître de stage faisait passer des thèses. Donc c'était ce critère-là à la base qui avait fait que je m'étais retrouvé avec elle dans ce cabinet-là. Et j'ai découvert en fait cette double activité à ce moment-là, mais j'avais pas pris ce stage-là pour ça.
Et tu n'avais jamais fait de DU, de médecine esthétique avant ce stage ?
Non, 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 du tout. Du tout, c'est au cours de ce stage, en fait, c'est elle qui a vu en moi quelqu'un qui pourrait faire de l'esthétique. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que elle l'a vu en moi avant moi-même.
Mais alors, elle a vu quoi ? Elle a vu quelle part de toi qui a de l'attrait pour l'esthétique ?
Eh bien, plusieurs choses. Je me rappelle un jour, elle m'a dit que c'était sorti de nulle part. Un jour, je mangeais avec elle. Elle m'a dit, Kevin, il faut que tu fasses de l'esthétique plus tard. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me dise ça. Et en fait, elle m'a dit que selon elle, je cochais tous les critères. Elle m'a dit que j'étais jeune, que je pouvais mettre facilement les patients en confiance, que je me présentais bien. Et parce que en fait, elle avait souvent des stagiaires avec elle, en fait, et elle me disait que ce qui se passait souvent, c'est que en fait, nous, on faisait un entretien préalable avec le patient qui allait faire de l'esthétique. On le faisait seul et au moment de faire l'acte, c'était elle qui venait. Et des fois, on l'aidait à faire l'acte. Et elle me disait que c'était rare que les patients demandent qu'au moment de faire l'acte, je sorte de la pièce. Alors qu'elle disait que très souvent, les stagiaires qu'elle avait, les patients demandaient « Est-ce que le petit jeune peut sortir maintenant qu'on doit faire l'acte ?» Et elle me disait que ça sous-entendait que je les avais mis assez en confiance dans l'entretien préalable au point que ça les dérangeait pas que je sois là. Donc déjà, elle m'avait dit que ça, c'était un point très important parce que en esthétique, il faut vraiment se sentir en confiance et être à l'aise avec le praticien. Et enfin, elle m'avait dit que ma couleur de peau, le fait que je sois noir, pouvait être un avantage dans ce domaine-là parce que elle me disait qu'elle avait beaucoup de demandes de patientes noires qui recherchaient des praticiens noirs et qu'elle n'en connaissait pas ou trop peu en tout cas. Et elle me disait donc que j'avais le profil parfait, étant moi-même noir, pour pouvoir être épanoui dans ce domaine-là et répondre à une demande un petit peu manquante.
Donc elle a vu ça en toi. Et toi, à quel moment tu t'es dit « Ah tiens, c'est vrai, ça pourrait être sympa de faire de la médecine esthétique ?»
Ben, sur le coup, moi, j'étais encore en train de me dire « Est-ce que j'allais faire médecine du sport ? Est-ce que j'allais faire allergo ?» Donc, j'étais pas sur la médecine esthétique. Donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, tiens, après, ça a mûri dans mon esprit. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Et c'est vrai qu'elle avait des arguments qui étaient recevables, entre guillemets. Et je me suis dit, si elle qui fait ça depuis des années voit ça en moi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, à faire. Donc, j'ai passé les DU pour voir si j'allais être pris au DU et si j'allais valider les examens. Et ça a été le cas. Donc, je me suis lancé dedans et voilà, j'ai fait deux DU, en fait, hein. J'ai fait un DU de tout ce qui était technique d'injection et de comblement. Donc, tout ce qui est injection de toxines botuliques, acide hyaluronique, les peelings, etc. Et en parallèle, j'ai fait aussi un autre DU spécifique aux lasers médicaux. Et donc, ces deux DU étaient en parallèle de mon internat de médecine générale, en fait. Et comme j'ai été reçu au DU et que j'ai validé les examens, je me suis dit, c'est peut-être un signe que c'était fait pour moi, effectivement.
Et ça veut dire que quand t'es arrivé à la fin de ton internat de médecine générale, t'avais validé ces deux DU et que donc, à ce moment où tu peux choisir ton activité, tu n'es plus en train de choisir des stages, mais vraiment tu peux aller faire ce que tu veux, tu étais prêt et opérationnel pour faire de la médecine esthétique.
Exactement, je suis arrivé à la fin de mon internat de médecine générale, et j'étais polyvalent en médecine générale et en esthétique. Et parce qu'en esthétique, comme je t'expliquais, vu les DU que j'avais passés, en fait, je pouvais faire tout type d'actes à ce moment-là. Et là, se poser la question du mode d'exercice. Est-ce que j'allais faire de l'hôpital? Est-ce que j'allais faire du cabinet? Est-ce que j'allais travailler dans des centres d'esthétique? Est-ce que j'allais faire une partie en cabinet, une partie en hôpital? C'est vrai que j'avais énormément de choix qui se posaient à moi.
Et qu'est-ce que tu as choisi alors juste après l'internat? Tu as fait quoi?
Eh bien, après l'internat, alors c'est assez drôle parce que je voulais plus faire l'hôpital déjà. C'était sûr et certain dans ma tête. Je voulais pas faire de l'hôpital. Le problème, c'est que j'avais fait certains stages chez d'autres maîtres de stage qui s'étaient pas super bien passés. J'avais pas apprécié en fait. Le mode d'exercice du médecin chez qui j'étais, et ça m'avait donné une mauvaise image de la médecine de ville en fait. Et donc j'étais un peu contrarié parce que je me suis dit que je ne voulais ni faire de l'hôpital ni j'avais peur de faire du cabinet de ville aussi parce que suite à la mauvaise expérience de laquelle je venais de sortir. Mais il fallait bien que je fasse quelque chose, donc j'ai commencé à faire des remplacements en médecine générale, et en parallèle, je travaillais dans des centres d'esthétique sur Paris. Et donc j'ai commencé à faire ma double activité sans avoir encore mon propre cabinet, ni en médecine générale, ni en esthétique.
Et juste pour avoir une idée de comment tu articulais tout ça, tu faisais par exemple 2 semaines de remplacement en médecine générale dans un cabinet, en faisant 5 jours sur 5, enfin 5 jours sur 5, 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, enfin peu importe, mais en tout cas toute une semaine ou 15 jours complets de médecine générale classique, comme on se l'imagine. Et après, t'allais travailler, je sais pas moi, 2 semaines ou 3 semaines dans un centre de médecine esthétique. Ça s'organisait comment?
C'était assez compliqué à cette époque-là parce que j'étais en train de finaliser ma thèse. Donc en fait, je me laissais 2 jours par semaine pour faire ma thèse. Je me laissais 1 jour par semaine pour faire de l'esthétique dans des centres sur Paris. Et les autres jours de la semaine, je faisais des remplacements de médecine générale. Donc ça a été une période assez intense, mais j'ai beaucoup appris.
Et j'imagine que oui, du coup, tu as gagné en expérience dans tous les gestes en médecine esthétique avec ces jours de travail dans des centres.
Ouais.
Et là, tu faisais de tout.
Là, je faisais de tout. Je faisais de tout. Il y avait beaucoup de demandes, donc c'était des centres polyvalents, donc on faisait un peu de tout et on répondait à la demande des patients.
Tu te sentais comment, toi, dans cette organisation et dans ces activités?
En esthétique ou bien en couplant ça avec la thèse et les remplacements de médecine générale?
Les deux.
Comme je le disais, c'était très intense parce que mes jours de repos, il fallait que je travaille ma thèse parce que je comptais m'installer déjà. Je commençais à me dire qu'il fallait que je m'installe à mon compte en libéral. Donc il fallait que j'avance sur ma thèse. Après, c'était bien parce que en fait, comme toutes les semaines, je faisais et de la médecine générale et de l'esthétique, ça me permettait vraiment d'avoir les pieds un petit peu partout et ne pas perdre en pratique. Après, comment je me sentais, dans le cabinet de médecine générale, très bien, parce que j'ai eu la chance de tomber sur des super collègues qui sont actuellement mes collègues avec lesquels je me suis installé aujourd'hui, et on est sur la même longueur d'onde et on voit vraiment tout type de pathologie et c'est vraiment enrichissant.
Et ça t'a réconcilié avec la médecine générale de ville.
Exactement, exactement, et ça m'a rassuré. Et c'est là que le dicton de tout à l'heure qui disait que la patientèle était à l'image du médecin, c'est là que ça a pris tout son sens parce que j'ai réalisé à ce moment-là qu'en fait le médecin chez qui j'étais ne faisait que des arrêts de travail et des renouvellements d'ordonnances et il passait ses journées à faire ça. Et moi j'avais cette image-là du coup de la médecine parce que les patients venaient le voir soit pour l'un soit pour l'autre en fait. Mais il se passait le mot et c'est comme ça que naturellement la patientèle elle se crée en fait.
Mais toi,
Et
tu te
là,
retrouvais pas là-dedans.
non, je me retrouvais pas là-dedans du tout. Et quand j'ai commencé à faire des remplacements en voyant que les gens venaient pour tout type de motifs et que et là j'avais vraiment l'impression de servir à autre chose que juste de la paperasse ou du renouvellement d'ordonnance et vraiment de réfléchir, de trouver les diagnostics et d'être stimulé intellectuellement et ça correspond beaucoup plus à mon caractère en fait. Donc là, ça m'a vraiment réconcilié et c'est là que je me suis dit, je veux m'installer à mon compte et plus juste être un simple remplaçant. Mais pour ça, il fallait ma thèse et c'est pour ça que je bossais ma thèse en parallèle. Et concernant l'esthétique, par contre, j'étais, disons qu'en théorie, j'étais à l'aise dans ce que j'avais à faire parce que les gestes, je les connaissais, je les maîtrisais. Mais dans les centres où j'étais, ce qui me dérangeait beaucoup plus, c'était bah, c'était la patientèle, les demandes qui étaient souvent très abusives, notamment des injections à répétition, qui respectaient pas forcément les délais entre deux injections, des patients avec des profils psychologiques très particuliers, parce que en fait, certains malheureusement ont une très faible estime d'eux et essayent de compenser ça par une modification physique. Et c'est un côté qui me dérangeait. J'ai eu vraiment des demandes farfelues, hein. J'ai eu des patientes qui venaient pour se faire injecter un petit peu dans les lèvres, pour faire gonfler les lèvres, qui me demandaient si je pouvais mettre une partie du produit dans leur poitrine pour faire gonfler leur poitrine, par exemple. C'est des demandes qui me gênaient, évidemment. Qui sont interdits en plus, hein. Mais et quand je refusais, certaines patientes me disaient que si elles me payaient plus, est-ce que j'allais accepter de le faire? J'ai vraiment senti des demandes gênantes, abusives. Pareil, j'avais beaucoup de demandes de patientes mineures qui n'avaient même pas 18 ans. Et évidemment, c'est des actes médicaux et sans les parents, c'est tout à fait interdit. Et c'est ce que je leur expliquais. Elles essayaient de faire du forcing. Ou bien, et le jour de leurs 18 ans, elles étaient là en train de demander des injections pour des rides qu'elles n'avaient même pas d'ailleurs. Et c'était des demandes vraiment gênantes et j'étais pas en accord avec moi-même et ça me correspondait pas. Et c'est pas pour ça que j'avais passé ces diplômes-là. C'est pas pour ce côté-là.
Dans ce centre, t'étais libérale, t'étais salariée, ça se passe comment en fait? Et quelle était ta... Enfin, est-ce que tu pouvais claquer la porte et partir du jour au lendemain? T'avais un préavis? T'as mis du temps à organiser ton départ? Est-ce que tu peux nous parler vraiment des choses un peu concrètes?
Oui, alors, ben, c'était des centres où c'était du... Comment dire? En fait, on était rémunéré en fonction des patients qu'on faisait. C'est-à-dire que sur l'acte, en fonction des patients, il y avait un pourcentage qui nous revenait. Mmh. En fait, le centre, lui, il a toute la structure, il a toutes les machines, etc. Donc, c'est avantageux pour les jeunes étudiants ou les jeunes médecins comme moi qui sortons des études et qui n'avons pas forcément les moyens à ce moment-là, qui ne pouvons pas se payer des machines. Donc en fait, les centres, elles ont toutes les structures, toutes les machines, les patients arrivent, nous, on leur fait l'acte et on touche un pourcentage sur l'acte qu'on a fait. Si on voit aucun patient ce jour-là, ben, on n'a rien.
Et ça veut dire que si sur ta journée, tu refuses une fois, deux fois, trois fois, dix fois de faire un acte, tu baisses ta rémunération et celle du centre.
Oui, et c'était plus compliqué que ça parce qu'en fait... C'était délicat parce qu'on n'avait pas toujours notre mot à dire en fait. C'est-à-dire qu'on avait le boss du centre qui nous disait de répondre à la demande en fait, de répondre à la demande des patients. Et c'était ça l'objectif principal. Et c'est ce que je dénonce un petit peu dans certains centres d'esthétique. Bien sûr, je ne veux absolument pas généraliser parce que il faut jamais généraliser de toute façon. Mais les centres où j'étais avaient cette politique de faire du chiffre, faire du chiffre, faire du chiffre, même si les demandes sont abusives, même si les profils psychologiques sont un peu douteux ou délicats. Voilà. Et moi, ça, ce côté-là me dérangeait énormément. Et des fois, ben, vraiment, quand c'était trop, trop, trop en désaccord avec mes valeurs, je refusais. Mais on me faisait bien comprendre que il fallait accepter le plus souvent possible. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir parce que ça j'étais pas en accord avec moi-même. C'est des endroits où vous pouvez très bien gagner votre vie. Il y a certaines journées où je pense que j'ai gagné plus que certaines journées aujourd'hui, mais la paix intérieure elle a pas de prix en fait. Elle a pas de prix et être en accord avec soi-même ça n'a pas de prix. Et ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup, beaucoup de gens, et notamment beaucoup de jeunes, de manière générale, hein, pas que dans la médecine, mais c'est un message que je trouve qui est important parce que j'ai des patients qui sont adolescents, qui arrivent en fin de lycée, et je leur demande, c'est quoi l'avenir, qu'est-ce qu'ils comptent faire plus tard? Et des fois, j'ai comme réponse, je sais pas, mais faire de l'argent. Et je leur dis, mais l'argent, c'est pas un métier. et je trouve que les mentalités, elles changent pas forcément dans le bon sens parce que on dirait que les gens préfèrent, bien sûr que quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, il en faut de l'argent. On peut rien faire sans argent. Mais si c'est le seul critère qui dirige vos choix, on parle quand même de métier que vous allez faire toute votre vie, tous les jours. Si vous aimez pas ce que vous faites, même si vous gagnez bien, forcément tôt ou tard ça va être compliqué. Et c'est ce que ça m'a vraiment permis de comprendre, ce passage-là dans les centres d'esthétique à Paris. Je gagnais parfois plus, mais j'étais pas en accord avec moi-même, j'étais pas épanoui. Le soir, je me couchais, j'étais pas bien. Je me disais, il y avait quelque chose qui coinçait en fait. J'étais pas serein. Je répondais à la demande des patients, certes, mais moi-même, j'étais pas satisfait et j'ai préféré partir parce que, comme je te disais, des fois les demandes étaient vraiment vraiment abusives et le problème de la beauté en esthétique, c'est que c'est subjectif, c'est pas objectif. Et des fois, j'avais des demandes d'injecter seulement dans la joue gauche. Parce qu'il y a un complexe sur la joue gauche. J'expliquais au patient ou à la patiente que si j'injecte que d'un côté, ça va faire une asymétrie. Mais il fallait répondre à la demande des patients et je savais que la semaine d'après, ils allaient revenir pour dire oui, mais c'est pas symétrique et ça ne manquait pas. Et tout ce côté-là ne me manque absolument pas. C'est pour ça que, au moins dans l'épilation laser, il y a pas de chichi, ça repousse ou ça repousse pas et voilà.
Est-ce que aujourd'hui tu es heureux dans ta pratique? Parce que finalement, on pourrait se dire, tu parlais de ce besoin de diversité, etc. En faisant juste de l'épilation laser, tu as quand même renoncé à de la diversité dans la pratique de la médecine esthétique.
Exactement. Mais honnêtement, ça me va. Actuellement, en tout cas, ça me va. Ça fait bientôt 7 ans maintenant que j'ai fait cette double activité et ça me convient comme ça. Après, j'ai une patientèle qui reste encore jeune et j'ai une forte demande. Peut-être que en milieu ou fin de carrière où ma patientèle aura vieilli avec moi, peut-être que les demandes seront différentes que de l'épilation au laser. Peut-être que ce sera plus des soins anti-âge et peut-être qu'à ce moment-là, je changerai ma pratique aussi et je l'adapterai. Je ne sais pas encore de quoi demain sera fait, mais en tout cas actuellement, oui, je suis pleinement épanoui et puis, comme je disais, la médecine générale m'aide également à faire plein d'autres choses. Et puis, ce que j'aime bien en esthétique, c'est qu'on peut vraiment prendre... Les gens sont pas malades, en fait. Donc, on peut vraiment prendre le temps de discuter avec eux. Les séances, elles se font en musique, dans la bonne humeur. C'est vraiment détente et ça me permet d'équilibrer avec le côté un peu plus sombre de la médecine générale, avec des gens qui se plaignent ou qui sont malades, et qui sont pas bien, en fait, et qui ont pas spécialement envie de parler.
J'avais envie de te demander, elle ressemble à quoi pour toi l'activité de médecine esthétique idéale, parfaite? Si tu avais une baguette magique, on te dit voilà, ton mi-temps d'activité esthétique, tu peux faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais?
C'est une très bonne question. Je pense que je ferais de la médecine générale de l'esthétique, c'est-à-dire que je ferais tout, je ferais un peu de tout. Puisque j'ai fait les diplômes justement dans ce but-là, mais je prendrai vraiment le temps de trier les demandes et de sélectionner uniquement les demandes que je trouve pertinentes. Mais c'est ce qui est le plus dur en fait. C'est ce qui est le plus dur parce que quelque chose qui va être pertinent pour moi ne le sera pas forcément pour le ou la patiente. Et c'est ça qui n'est pas évident. Mais honnêtement, je ferai de tout, de l'épilation laser, des soins anti-âge, des injections aussi. Mais je serai maître de décider oui ou non si tel ou tel acte est faisable ou si c'est une demande abusive. Et voilà. Dans un monde vraiment 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 idéal, je pense que certains patients devraient presque avoir une évaluation psychologique parce que j'ai vraiment compris dans les centres où j'étais à Paris que certains patients en fait souffraient psychologiquement et trouvaient refuge en fait dans du paraître et dans du superficiel en voulant changer en fait leur image mais sans traiter ce qu'ils avaient à l'intérieur. Et c'est vraiment ce côté-là qui me gênait et qui pour moi nécessite d'abord pour ces patients-là une évaluation ou une prise en charge psychologique avant de faire tel ou tel acte.
Donc, ton exercice idéal de la médecine esthétique, ce serait finalement des gestes qui ne s'adressent qu'à des personnes suffisamment bien dans leur tête pour que la médecine esthétique soit de l'embellissement et pas du cache-misère. C'est peut-être un peu dur dit comme ça, mais...
Mais oui, l'idée, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Évidemment que on a tous des complexes. On en a tous, et ça, et c'est normal, j'ai envie de dire. Et bien sûr que pour répondre à la demande de tel ou tel complexe, il y a aucun problème. Ça, c'est quelque chose qui vous a toujours perturbé depuis toujours et que vous pouvez le corriger avec de l'esthétique ou enlever telle ou telle chose disgracieuse. Ça reste correct et sain. Mais j'ai eu certaines demandes dans les centres où j'étais, où j'avais vraiment des jeunes femmes de même pas 20 ans qui venaient me voir avec la photo de telle ou telle star d'une télé-réalité en me disant « j'aimerais faire un maximum de soins pour ressembler à elle ». Et là, je me disais « il y a un gros problème, en fait. Les gens n'acceptent même plus, ne s'acceptent plus, en fait, tout simplement. Certaines ne s'acceptent plus et préfèrent être quelqu'un d'autre. C'est presque une dépersonnification. Enfin, ça devenait vraiment gênant. Et je trouve que on n'alerte pas assez là-dessus et sur les dérives, en fait. Sur les dérives. Quand on voit des patients qu'on a injectés et qu'on leur dit l'effet va durer environ 6 mois et qu'ils reviennent 1 ou 2 mois après en voulant redemander alors que l'effet est toujours en cours, c'est pas normal, il y a un souci. Et après, c'est difficile, hein. Comme je dis, la beauté, c'est très subjectif. Des fois, j'avais des patientes qui, de base, étaient très jolies sans aucun soin à faire de plus. Et je savais que les soins qu'elles demandaient n'allaient pas les embellir et ça allait perdre le naturel, en fait. Mais allez dire à quelqu'un, non, si je vous fais ça, vous allez être moins belle que vous êtes. Elle va vous dire, non, je vais être plus belle. C'est ça qui est compliqué. C'est très compliqué et c'est propre à chacun.
Finalement, une même demande d'une même personne n'aura pas forcément la même réponse si le médecin en face c'est toi ou quelqu'un d'autre.
Ben c'est ça. Tout dépend le but visé. Forcément, c'est un domaine qui est quand même assez lucratif. Hein, on va pas se mentir. Et malheureusement, certains médecins, je pense, en tout cas certains que j'ai côtoyés. Ne voyez que l'aspect financier bien au-delà du patient ou de la patiente. Et je trouve qu'il faut se méfier des dérives et des dangers qui concernent ça. J'ai toujours voulu mettre le patient en premier. On traite un patient, on traite un humain. On traite pas un cas clinique ou une feuille de papier ou une demande. On traite quelqu'un. Et c'est d'ailleurs pour ça que je tenais absolument à continuer la médecine générale, parce que je n'avais aucunement l'intention de perdre ce côté un peu plus humain, de soigner et guérir les gens et aider les gens, ce qui m'a toujours motivé depuis tout petit, en fait. Et quelque part, dans l'esthétique, on peut les aider aussi quand ça reste sain et bienveillant. Et c'est aussi pour ça que j'aime ce côté, parce que certains... Des fois, même pour l'épilation, j'ai certaines patientes qui ont des dérèglements hormonaux, qui sont complexées, qui n'osent... Et ça leur change la vie, en fait, parce qu'elles n'osent pas mettre des jupes ou des pantalons un peu courts, parce qu'en fait, elles ont une pilosité excessive, ou au visage, ou aux aisselles. Et en fait, quand vous avez des patientes qui vous disent « Merci, vous avez changé ma vie, vous avez changé mon quotidien, j'ai plus de complexe », vous les aidez aussi, d'une autre façon que de la médecine. C'est pas des médicaments, c'est pas chimique. Mais c'est une estime de soi qui remonte énormément. Et donc, ce côté-là, je l'aime bien. Mais pour rien au monde, j'arrêterai la médecine générale en parallèle. Et d'ailleurs, c'est bien dommage parce que beaucoup de mes confrères qui étaient dans mes promos d'esthétique, pour la plupart, ne font que de l'esthétique. Et je suis, en tout cas, de ceux avec qui j'ai gardé contact, je suis le seul qui continue à faire de la médecine générale en parallèle, qui est certes moins lucrative que l'esthétique, mais tellement plus enrichissante. C'est une question de personnalité aussi, je pense, et de valeur.
Et tu dirais actuellement dans ton revenu, quel est le pourcentage qui est généré par l'activité de médecine esthétique et quel est le pourcentage qui est généré par l'activité de médecine générale ?
C'est compliqué parce que en fait, dans mes actes d'esthétique, les actes ont des tarifs complètement différents. Selon les zones à faire, les actes peuvent avoir des tarifs vraiment très, très, très différents, du simple au triple selon la demande. Donc, c'est pas facile de répondre, mais on va dire peut-être au niveau revenu pur, peut-être deux tiers, un tiers, je dirais quand même. On va dire que c'est 50-50 de mon activité que je pratique, mais au niveau des revenus, c'est deux tiers, un tiers.
Donc effectivement, c'est bien plus rentable de faire de la médecine esthétique que de la médecine générale.
Exactement. Et si je ne réfléchissais que en termes de revenus, oui, je ferais que de l'esthétique, mais c'est pas mon but. C'est pas mon but. Et voilà, il y a quand même 10 ans de savoir scientifique pour guérir, soigner, aider les gens. Et j'ai pas envie de m'en séparer.
Tu as utilisé ces trois mots-là, guérir, soigner, aider les gens. La médecine esthétique, elle vient pas nourrir les deux premiers, en fait. Guérir et soigner.
Alors, oui et non. Oui et non, parce que on m'adresse aussi des patients en esthétique pour certaines pathologies. Donc, on parlait de dérèglements hormonaux, mais j'ai aussi... on m'adresse souvent des patients qui ont la maladie de Verneuil. C'est une maladie avec des infections à répétition à cause de poils incarnés, des abcès sur la peau, etc. C'est très invalidant parce que il faut des antibiotiques régulièrement et puis c'est très très disgracieux. Et en fait, le laser permet de quasiment guérir cette maladie. Et j'ai pas mal de patientes qui ont cette maladie-là et qui n'ont plus besoin d'antibiotiques tous les mois et qui ne font plus de poils incarnés. Donc, il peut y avoir le côté aussi vraiment prise en charge de certaines pathologies, parce que des fois, j'ai vraiment des patientes qui viennent avec un courrier de tel ou tel médecin pour une indication d'épilation au laser. Après, oui, il y a le côté purement esthétique de patientes qui n'ont absolument aucun problème de santé, mais qui veulent juste se débarrasser de leurs poils. Et oui, dans ce cas-là, c'est un peu moins le côté aider et soigner. Soigner et guérir, pardon. Mais dans tous les cas, si ça peut les aider, que ce soit physiquement ou mentalement, eh ben, je ferai tout ce que je peux. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je suis très promoteur de la santé physique et mentale. Parce que les deux sont liés, sont connectés. Et finalement, plus que je ne le pensais, le problème de pilosité peut être un vrai, vrai, vrai complexe chez certaines personnes. Aussi bien femmes que hommes d'ailleurs, parce que j'ai aussi des hommes en épilation laser. Et par exemple, pour aussi certaines pathologies comme les kystes pilonidaux qui se produisent sur des poils au niveau du sillon interfessier, qui font des abcès, des fistules et qui s'opèrent. Un des traitements pour éviter les récidives, c'est aussi de l'épilation laser. Et ça aussi, j'en ai beaucoup.
Donc finalement, la médecine esthétique n'est pas que esthétique.
N'est pas que esthétique. Peut ne pas que être ça, en tout cas.
C'est extrêmement intéressant tout ce que tu me racontes, mais l'heure tourne. Alors, je te propose tout simplement de répondre à ma dernière question, qui est la question rituelle. Quelle est ta tenue de travail ?
Quelle est ma tenue de travail ?
Yes.
Comment ça ? Je suis vraiment... Là ?
Quelle est ta tenue de travail, tout simplement ?
Ben,
pas blouse ?
Ah, je suis en blouse, je suis en blouse.
T-shirt, costard cravate, dessous, je ne sais pas.
Ah, d'accord. Non, je suis pas en costard cravate, je suis en blouse. Et en dessous la blouse, plutôt décontracté, on va dire. Après, j'aime bien la mode aussi, donc... sous la blouse, il y a du style, comme j'aime bien dire. Mais ouais, souvent, je suis tout le temps en blouse, souvent en masque aussi, comme on peut le voir sur mes vidéos. Et puis ouais, blouse décontractée, on va dire, et à la mode.
Et t'as la même blouse que ça soit pour la partie activité esthétique ou médecine générale.
Oui, j'ai la même blouse. J'ai la même blouse, ouais.
Je te remercie, Kevin, d'avoir répondu à toutes mes questions.
Ah ben, de rien, avec grand plaisir. Merci à toi.
L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.